Bon jouir, c'est Agathe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Bon Jouir, bienvenue dans vos dernières heures de votre dimanche soir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés et que vous allez être aptes à la détente, au plaisir et peut-être à un moment d'intimité, rien que pour vous. Et ce qui est assez plaisant, c'est peut-être aussi d'imaginer que cette émission, vous l'écoutez à un autre moment que le dimanche soir. Vous l'écoutez peut-être dans les transports en commun, un casque vissé sur les oreilles. Vous l'écoutez dans une panne de métro sur la ligne B de Rennes et Dieu sait si elles sont fréquentes. Bref, en tout cas, quel que soit le contexte dans lequel vous écoutez Bon Jouir, on espère que le plaisir réussit à vous apporter un petit peu de sa lumière. Merci infiniment à Yannick et Metal Injection. On leur souhaite de passer une très belle semaine, pas trop dure, mais toujours super hard. Et nous, eh bien, il est temps de commencer la 146e émission de Bon Jouir. Et oui, car après 1h30 de métal de tout poil, il est désormais temps de se mettre tous à poil sur Canal B. Sur Canal B. Cette semaine, je suis passée devant le lycée Émile Zola, avenue Janvier, à Rennes, et j'ai pu constater qu'il y avait une alerte à la bombe. Alors, tous les étudiants avaient été envoyés dans le jardin du Palais Saint-Georges, de l'autre côté de la Vilaine. Eh bien, pour attendre la fin de l'intervention, il y avait des voitures vigipirates, des voitures de police, des militaires. Toute une agitation très uniformisée autour de ce lycée et de ce collège. C'est toujours un petit peu glaçant dans la période que nous traversons, avec toujours, si vous écoutez les informations, les actualités, des nouvelles de Gaza, de tous ces meurtres, de ces tueries affreuses qui sont perpétuées d'un camp comme de l'autre pour des questions religieuses, des questions de territoire et des questions dont on a l'impression qu'elles ne se régleront jamais à part peut-être de pouvoir appuyer sur un bouton et de tout faire sauter. Et en tuant ces milliers d'enfants, l'un des camps et l'autre aussi, je dois bien le dire, ne font que éradiquer toute possibilité d'espoir, éradiquer toute possibilité de reconstruction, de renaissance. Et on se demande jusqu'à quel point ils n'ont pas eux aussi carrément envie de pouvoir s'auto-détruire jusqu'au dernier et ainsi, pour des conflits absolument irrésolvable, peut-être trouver cette seule issue que d'aller jusqu'à l'apocalypse totale. Bref, on est assailli de pensées comme celle-là. Il y avait déjà la guerre en Ukraine quelques mois auparavant, qui était quand même assez anxiogène. Ce conflit au Moyen-Orient, toutes ces alertes à la bombe et ce relèvement du plan Vigipirate à son apogée, tout ça fait que ça crée une sorte de climat d'insécurité dans le sens que on peut se dire que le monde va exploser peut-être dans peu de temps, le monde va brûler aussi dans peu de temps. Et je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire sur Netflix Life in Our Planet, produit par Steven Spielberg, mais ça raconte bien ça. La Terre a vécu 5 extinctions de masse et l'humain est en train de préparer la 6e, rien que en peut-être 100 ans, même pas. C'est quand même un bon challenge, bravo les gars. Et bravo les gars, d'ailleurs, bien sûr, hein, car je vous incite à aller acheter Le coup de la virilité de Lucille Pétavin aux éditions maintenant Poche, car vous pourrez constater que les violences sont perpétrées quand même à 84% environ par des hommes. Mais ça n'était pas le sujet. Donc on subit un peu tout ça, même si on essaye de l'évacuer, même si on a décidé d'arrêter d'écouter les informations, d'être sur d'autres réseaux évidemment, pour trouver d'autres types d'informations. Mais il y a quand même ce côté très anxiogène de la catastrophe climatique, des crues, des décrues, des tempêtes, etc. Alors comment réussir à retrouver un peu de soi, en tout cas un peu d'espoir, un peu de perspective. Et quand on voit cette jeunesse qui doit quitter son établissement scolaire parce qu'il y a une alerte à la bombe, alors Oui, ça arrivait aussi quand j'étais jeune et je trouvais ça assez cool parce que ça fait sauter des heures de cours. Des fois, ça tombe même hyper bien. Et on se doute aussi que certaines avaient pu être réalisées par des élèves qui n'avaient pas tellement envie de cette évaluation de mathématiques. Mais bref, en tout cas, oui, c'est quand même très important de se rappeler que quel est l'espoir de cette jeunesse, qu'est-ce qu'on lui donne et quelles sont les autorisations en fait qu'on leur permet en termes d'expression aussi, en termes d'identité, en termes de créativité par rapport à soi, de retrouver un peu ce qu'on a pu nous éprouver quand on était à leur âge, et bien l'impression d'une insouciance totale et que le monde nous appartenait et que nous pouvions en faire ce que nous voulions. Voilà. Eh bien, je pense que en réaction à tout ça, et aussi parce que l'époque change et parce que les paroles se sont beaucoup libérées, mais la question de la construction du genre, la question de l'identité propre est aussi un endroit politique pour cette jeunesse, un endroit de revendication, un endroit où l'on peut dire « moi je suis comme ça, je suis différente et je vais affirmer cette différence ». Parce que c'est pour moi un espace de liberté, d'espoir, un espace de créativité, et que tout ailleurs se referme. Pour avoir réalisé il n'y a pas très longtemps une semaine d'atelier d'intervention avec des jeunes de 14 à 18 ans, des jeunes volontaires, c'était pendant les vacances scolaires de la Toussaint, des jeunes qui voulaient faire du théâtre, et le sujet de notre stage avec Nicolas Petitzoff de la 114 Compagnie, eh bien c'était la question des discriminations. Donc évidemment, ces jeunes se sont inscrits en ayant des choses à dire et des choses à partager. Des choses très puissantes, des paroles vraiment très très fortes et des textes qu'on a écrits à leur côté, enfin qu'ils ont écrits à nos côtés plutôt. Voilà, on a fait comme ça 4 jours d'intervention et ça en donnera un podcast qu'on partagera avec eux en février. Mais bref, en tout cas, ce que j'ai pu constater à ce moment-là, eh bien, c'est que lors du tour de table de présentation, cette jeunesse pouvait dire « je m'appelle Lily et mon pronom c'est Yel. Moi je m'appelle Alice mais je m'appelle aussi Robin. » Donc vous pouvez me dire « il ou elle » selon voilà, votre envie. « Moi je suis Camille, je suis trans et je suis une femme. Moi je suis Anaïs et je suis aussi en parcours de trans. » Bref, et c'était plein d'endroits comme ça. Moi je suis pansexuelle, moi je suis bisexuelle. Et chacune et chacun avait vraiment un endroit d'affirmation de soi qui était quand même très clair, très posé, très, très indubitable et peut-être intimement plus compliqué, mais en tout cas, il et elle savaient qu'ils et elles avaient la possibilité en tout cas de l'affirmer et de poser là, voilà, ça comme un statement et qu'il y aurait une écoute absolue. Eh bien, je pense que la question du genre, la question de l'orientation sexuelle, c'est pour notre jeunesse aussi cet espace de liberté indubitable, cet espace de relien, ça se dit pas, mais de reconnexion à soi. Et en ça, eh bien, c'est hyper important que nous, adultes, soyons à l'écoute de cette question-là, soyons ouverts à ces réflexions-là et ne nous disions pas « Ah, mais c'est un effet de mode, tout le monde est trans maintenant, tout le monde est dans la transidentité. Comment est-ce qu'à 14 ans, on peut savoir qu'on est bisexuel alors qu'on a à peine touché une chatte ou une bite ?» Bref, excusez-moi les boomers, mais votre expérience ne fait pas la vérité. Voilà. Et en cela, je vous invite absolument, je vous exhorte même presque à aller vous procurer ce livre qui s'appelle « Pubère la vie ». À l'école des genres, écrit par le docteur Capote et c'est publié aux éditions du Détour. En plus de 20 ans, docteur Capote, animateur de prévention en milieu scolaire, a échangé avec des milliers de jeunes. Il nous invite à l'accompagner dans ses séances et à écouter les jeunes parler de sexualité et de rapports de genre. Il les laisse s'exprimer entre bon sens, vannes, provoques et réelles inquiétudes, dans un dialogue souvent drôle qui peut aussi bousculer nos représentations. S'il est toujours difficile d'être un ado différent du standard dominant dans les cours des lycées, des portes s'ouvrent. Modèle féministe, nouvelle masculinité, refus des LGBT-phobies. Les jeunes post-hashtag MeToo sont-ils pour autant plus progressistes sur les questions d'égalité? Peut-être. Mais leur environnement socio-culturel pèse lourd. Les rappels à l'ordre du patriarcat ne manquent pas et l'éducation nationale peine à respecter ses engagements. Même s'il n'est pas aisé de parler de déconstruction à des jeunes en pleine construction, Il y a urgence à promouvoir l'égalité sans leur faire payer l'addition des générations passées. Dr Capote nous démontre dans ce livre que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, en particulier en termes de rapport de genre. Eh bien, je vous invite vraiment à aller acheter donc Puber la vie à l'école des genres aux éditions du Détour. C'est un livre qui m'a confirmé dans des intuitions que j'avais à l'écoute et quand je rencontre des jeunes, qui m'a bousculée aussi, comme l'a fait d'ailleurs ce stage de 4 jours avec ces jeunes qui avaient tant à parler, tant à dire, à partager sur la question des discriminations, de ce qu'elles peuvent vivre au quotidien dans des établissements. Et je crois que c'est important, si on ne veut pas passer à côté de nos jeunes, de pouvoir eh bien, avoir la curiosité, l'écoute, la générosité de leur consacrer du temps et une écoute bienveillante. Donc ce livre est vraiment essentiel.
Bonjour.
Sur Canal B. J'espère que vos papilles et vos pupilles sont bien dilatées et prêtes à accueillir eh bien, les mots et la voix suave de Benjamin Bechler, puisqu'il est désormais temps de retrouver la librairie Foutrac avec un nouvel épisode de l'œuvre de Agnès Dessarthe, Mangez-moi, publié au Point. Bonne dégustation.
Mes deux premières clientes sont des lycéennes. Elles passent la porte à 12h15. Chez moi est ouvert depuis plusieurs jours. J'ai reçu la visite du fleuriste d'à côté qui a mauvaise haleine et se dit très tatillon. Il l'annonce avec fierté comme s'il s'agissait d'un pédigré prestigieux. Je pense qu'il a choisi le commerce des fleurs dans l'espoir de masquer les relents de bile qui empuantissent son palais. Si vous étiez vraiment si tatillon, ai-je envie de lui dire, vous décideriez de l'être moins? À force, on devient bougon et la bile noire se forme. Un cheveu sur l'écran de la télévision entraîne le spasme gastrique. Une assiette en carton pour manger de la salade niçoise et l'étau se resserre. L'œsophage s'enflamme. Une cliente qui confond renoncule et anémone suffit à colorer la salive. Si vous étiez moins tatillon, vous sentiriez meilleur et le monde s'en trouverait purifié. Mais je ne dis rien. Du coup, il se sent mal à l'aise et se croit obligé de me faire une proposition. « Pour votre déco, me dit-il, je pourrais mettre de côté les invendus. Ma réputation m'oblige à ne vendre que des fleurs qui tiennent la semaine. Je ne peux pas les garder en boutique plus de 4 jours. » Il s'attend à de chaleureux remerciements anticipés. Mais je ne dis rien. Je n'exprime rien. Je ne parviens même pas à sourire. C'est à cause de l'odeur. Comme si un minuscule cadavre était en train de pourrir en lui. « Elles ne seront pas fanées, m'assure-t-il. » Peut-être a-t-il lu l'écœurement dans mes yeux. Lorsque je referme la porte sur lui, j'inspire enfin par les narines et je pense à Leslie, la file de feriste qui mettait mes nerfs en pelote avec ses doléances sans fin, mollement murmurées et fondues dans la sauce fade de son accent américain. « Toujours la viande » geignait-elle. S'il y avait des légumes, elle se plaignait d'aérophagie. Quand je cuisinais des pâtes, elle pleurnichait que tout allait se coller directement en haut des cuisses. Je lui expliquais que les pattes ne font pas grossir. Elle riait de son rire de brebis mélancolique et secouait la tête, les yeux au ciel. Mes deux premières clientes ne lui ressemblent pas. Ce sont des lycéennes. Leurs pantalons pendent à leurs hanches dodues. Mes petites cailles, pensais-je en secret. Je trouve leur corps charmant, semblable à des abricots géants. L'idée me vient de planter l'index dans la chair parfaite de leur ventre qui s'offre rebondi sous la peau scintillante. Bien entendu, je n'en fais rien. Elle ne commande qu'une entrée, je m'étonne. C'est trop cher, m'explique-t-elle. Mais vous aurez faim en sortant, vous avez cours cet après-midi? Oui, philo. Il faut manger avant de philosopher. Je divise tous les prix par deux. Disons que ce sera ma contribution à l'avenir de la philosophie mondiale. Si l'une de vous devient la penseuse du siècle... J'ai trop parlé, elle s'ennuie, elle trouve que je suis cinglé. Mais elle ne renonce pas à profiter de mes largesses. Je me demande en les regardant engloutir leur soupe avocat pamplemousse si je les trouve sympathiques ou si je les déteste. Je remarque que j'ai laissé un soutien-gorge à sécher sur le robinet d'arrivée du gaz. C'est l'inconvénient des cuisines ouvertes. Je le range dans ma poche et sors du frigo ma vieille aiguillette de rumsteak. Un gâchis qui bouleverserait bien des maîtresses de maison, car c'est le jour des boulettes. Mais moi, c'est différent. Moi, je suis patronne d'un restaurant. Je fais ce que je veux avec les beaux morceaux. Ce n'est pas du gaspillage, c'est un gage de qualité. Je hache la viande de luxe. Afin de ne pas déranger le bavardage des jeunes philosophes avec le son de ma moulinette, je pars m'enfermer dans les toilettes. C'est l'autre inconvénient des cuisines ouvertes. J'imagine un instant une salle pleine, un service de 25 couverts, les commandes qui s'accumulent, les clients qui occupent les cabinets et m'empêchent d'y trouver refuge pour exécuter les tâches les plus bruyantes. « Il sera toujours temps de fermer, me dis-je, prise de vertige. » Lorsque je ressors, je constate qu'elles ont tiré de leur sac un paquet de cigarettes. Je suis saisi d'une irrésistible envie de déclarer « Chez moi, espace non-fumeur ». Mais c'est idiot, je fume moi-même et ce serait excessivement mauvais pour le commerce. Les gloutonnes ont déjà terminé leur entrée. Leur maman ne leur a-t-elle pas appris qu'il convenait de manger lentement en reposant sa cuillère entre chaque bouchée? Les volutes de fumée de camel se mêlent aux nuages de vapeur qui s'élèvent de la poêle. Nous devenons fantomatiques, perdus dans une brume épaisse. Elles ne semblent pas incommodées et je me félicite que mes premières clientes ne soient pas tatillonnes. Des passants s'attroupent, intrigués par le mystérieux brouillard. C'est le début de la gloire. Un homme se précipite pour nous sauver. Il surgit et demande en hurlant « Vous voulez que j'appelle les pompiers ?» Nous sursautons et nous rions. Il y a vraiment une excellente ambiance chez moi. Après l'avoir assuré, je lui propose de s'asseoir. J'ouvre la porte pour créer un courant d'air et je lui offre une bière blanche glacée. « Pendant que j'y suis, je vais manger un morceau », dit-il en desserrant son nœud de cravate. Je le surprends en train de reluquer les hanches ambrées des jeunes filles. Je décide de leur offrir le dessert. « Mmm, c'est trop bon !» s'exclame l'une d'elles en trempant un morceau de pain dans la sauce au moment où je m'approche pour débarrasser. Finalement, je les trouve très sympathiques. Je les déclare mentalement clientes fétiches. J'entrevois la perspective d'un commerce particulier. Il s'agirait d'attirer les jolies femmes ici en leur concédant certains avantages, certains privilèges. La foule afflurait dans mon restaurant pour se rincer l'œil et les profits seraient assurés. Toute vente finie, c'est un principe à révoquer la traite des esclaves ou le proxénétisme. Je cherche un contre-exemple et n'en trouve pas. Je n'ai pas honte, je le savais en ouvrant chez moi. Cela me convient parfaitement. That's real good. Take it.
What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day.
difference a day makes. 24 little hours from the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy since that moon of bliss. Ooh, that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and that difference is you.
Le morceau que nous venons de partager, peut-être n'est-il pas besoin pour vous de vous le présenter, mais en tout cas c'était What a Difference a Day Make de Esther Phillips, une reprise du morceau de Dinah Washington. Et c'était Lornette Boy dans le plan chaleur de l'été qui nous avait partagé ce morceau. Malheureusement, les 58 minutes ne nous avaient pas permis de le passer. Alors voilà, la réparation est ainsi réalisée. Merci Lornette Boy pour ce grand moment d'orgasme disco.
Bonjour.
Sur Canal B. Car les questions de sexualité se partagent, car le cul, ça se partage, vous ne le savez que trop bien, car aussi, eh bien, on peut désirer réaliser des activités en groupe liées à ces questions de sexualité, d'intimité, etc. Eh bien, Bonjour vous propose un petit calendrier des jours et des semaines à venir. Alors, déjà, par ordre chronologique, rappelez-vous, lors de l'émission du 25 juin dernier, c'était l'émission 138, nous avions rencontré Anne-Laure Patti, qui est comédienne, autrice d'un spectacle qui s'appelle « Désir pluriel ». C'est un seul en scène avec objet qui dure 35 minutes sur la question du désir féminin. Elle a donné corps à des entretiens qu'elle avait réalisés en 2020 auprès de femmes sur leur rapport au désir, et son intention était de donner à voir la pluralité du désir féminin et son évolution au cours de la vie. Eh bien, le 21 novembre, donc dans très peu de temps, Désir pluriel revient à la maison de quartier de Villejean. C'est donc le mardi 21 novembre à 18h30, accueil à partir de 18h15, entrée gratuite. Il suffit simplement de confirmer votre présence par email. L'email, il est très simple, c'est annelaurepatty@gmail.com. Anne-Laure, comme Anne-Laure, Patty, patty@gmail.com. Vous pouvez aussi la trouver sur Instagram. Je vous propose de remettre quelques extraits de notre rencontre avec Anne-Laure dans l'émission afin que vous puissiez raccorder un petit peu les wagons. Mais c'est important aussi de pouvoir poser des mots, ne fait que le dire chaque dimanche soir, et de pouvoir comprendre aussi comment un spectacle peut naître de cette intimité, de ces questions très très personnelles. Et comment, à partir de soi, on peut réussir à atteindre peut-être l'universel, du moins, en tout cas, pouvoir partager des choses qui puissent être entendues et vécues peut-être par d'autres. Je souhaite montrer à quel point le désir est polymorphe, qu'il peut être transgressif, libre, évolutif, souvent joyeux, parfois bloqué, qu'il découle d'une histoire familiale, de ce que la société nous renvoie, qu'il faut l'assumer dans toute sa puissance et ses formes, car ce qui est désir n'est pas acte. L'envie de créer ce projet est née dans le cabinet d'un thérapeute, face au combat silencieux que je menais sur le chemin de traverse qu'a été pour moi la maternité. Le désir, alors peu présent dans ma vie, était jeté à nu et projeté d'une manière inattendue. La violence des émotions et la culpabilité ressentie m'ont amenée à souhaiter parler de mon vécu et de celui d'autres femmes, afin de mettre des mots sur l'indicible, libérer la parole taboue, donner une histoire à une expérience de vie qui peut être partagée, mise en mouvement et de fait, circulant, libérer l'être prisonnier du silence. Pour faire résonner chez l'autre notre face cachée et montrer une voie vers la libération. Je vous invite donc à aller à la maison de quartier de Villejean le 21 novembre à 18h30 pour partager ces questions liées au désir et au désir pluriel avec Anne-Laure Paty.
Bonjour.
Sur Canal B. Et maintenant, un rendez-vous dans un tout autre style. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire samedi 25 novembre? Dites-moi. Bon, si vous ne savez pas trop, peut-être à part lire encore ce fameux roman policier, boire du thé et vous prendre pour un Suédois ou une Suédoise en plein Ige, je ne sais jamais comment on le prononce, eh bien pourquoi pas au contraire troquer la polaire et puis la couverture en pilou-pilou et aller travailler, essayer les feuillages. Et oui, samedi 25 novembre, il y a la 4e édition du Cabaret des Vilaines. C'est à la salle de la Cité que ça se passe, à 19h30, et pour prendre des places, il faut aller sur Hello Asso. À la salle de la Cité, vous avez bien entendu, et oui, c'est en lieu, ce lieu quand même très emblématique du rock rennais, cette salle quand même très très historique, on peut dire, dans le milieu musical et le milieu punk, etc. de Rennes, et bien, il accueille aussi des cabarets, des feuillages burlesques. Alors, qu'est-ce que c'est les feuillages burlesques, vous vous demandez? Eh bien, c'est tout simplement un autre mot pour désigner le striptease. Eh oui. Alors, le premier striptease eut lieu à Paris. C'était une Polynésienne, Miss Fortunia, sur la scène du Crazy Horse en 1951. Et puis ensuite, l'iconique Betty Page s'est souvent inspirée de l'imaginaire hawaïen pour ses photos. Voilà, alors évidemment, c'était pagne en raffia, soutien-gorge fleuri, une seule taille de bonnet, car évidemment, la vaïnée doit être bien dotée, bracelet en coquillage et tout ça. Et donc, le principe, eh bien, c'est d'apprendre à se déshabiller avec des mouvements chorégraphiques, c'est-à-dire peut-être des mouvements de vagues, des mouvements de bras, des mouvements de buste, de ventre, bien sûr. Et petit à petit, eh bien, on laisse le corps prendre le lead et les mains dégrafent des soutiens-gorge, enlève les accessoires vestimentaires un à un sur une petite musique. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'humour dans ces effeuillages, d'où le nom de burlesque, puisqu'il y a aussi du déguisement, de la plume, des paillettes. Il y a une façon un peu outrancière, c'est pas simplement d'être en survêtement et de se mettre à poil. Donc voilà, c'est quand même assez chouette, c'est aussi un cours c'est aussi une pratique qui peut vous permettre d'explorer la sensualité qui est en vous, qui vous permet donc de danser, d'être créatif dans votre rapport à votre corps et puis évidemment, bien sûr, de vous amuser. Alors, il y a plein de choses à apprendre. Si ça vous intéresse, en tout cas cet asso, et on les rencontrera très bientôt dans Bon Jouir, qui s'appelle donc Burlesque et Vilaine, eh bien, vous propose tout ça, à la fois peut-être de vous plonger dans l'univers du cabaret burlesque en allant donc le 25 novembre à la Cité pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc vous serez à côté de Artichaut, de La Féculent, Atomique Marguerite. C'est quand même, rien que des noms, ça fait un peu rêver. Et puis il y a aussi des propositions de cours annuels, des feuillages, avec une exploration de ces techniques nécessaires, l'apprentissage des chorégraphies, les jeux de scène, les ateliers créatifs, du coaching burlesque, car c'est aussi une attitude et un way of life. Donc ça c'est toute l'année, vous pouvez vous inscrire. Et puis il y a aussi de temps en temps des masterclass avec l'une ou l'autre de ces danseuses, pour peut-être vous faire une immersion plus rapide. Vraiment, allez sur Hello Asso, regardez la page de Burlesque et Vilaine, vous y retrouverez beaucoup, beaucoup de ressources. Et puis, en ce début d'hiver, peut-être que c'est plutôt pas mal d'oser se déshabiller, d'oser être dans une sorte de tendance à l'inverse de celle du cocooning, et puis surtout de retrouver un rapport ludique avec votre corps, avec vos formes, avec tout ce qui constitue votre féminité. C'est aussi bien de pouvoir l'assumer.
Oh, this fever.
Oh, this fever. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Aglaé. Et pour faire cette interview, bon, il se trouve qu'on est dans une voiture, dans la circulation d'une grande ville et d'une capitale française, pour ne pas la nommer. Et on est avec Aglaé, qui a quel âge ?
75.
Ma question est la suivante. Comment ça se passait pour toi quand tu étais adolescente ?
Alors, comment ça se passait ? Comment ça se passait ? C'est une grande question. Déjà, on nous disait rien. c'était un petit peu, on fallait aller à la pêche pour renseignement, enfin poser des questions, mais poser des questions à qui ? C'était impossible de poser des questions à la mère. Au père, on n'y pensait même pas, et la mère, c'était pas la peine parce que on entendait toujours quand tu seras plus grande, quand tu seras plus grande, quand tu seras plus grande. Donc, comme ils n'arrivaient pas, ils étaient incapables de parler de ça, ils avaient heureusement la bonne idée, malgré tout, en tout cas en ce qui me concerne, de laisser traîner des livres sur l'éducation sexuelle des enfants. Des livres, évidemment, qui étaient orientés catho. Mais c'était bien quand même, c'était déjà ça. Et en plus, comme je suis d'une famille de filles, c'était même pas la peine de penser qu'on pouvait apprendre quelque chose, ni savoir comment un garçon était foutu. Fallait se débrouiller avec les cousins ou laisser traîner les oreilles à droite, à gauche.
Et dans les livres, il y avait quoi ?
Alors, dans les livres, c'est un vaste programme. Livre catho. Donc, évidemment qu'il était formellement décommandé de se masturber. C'était même présenté comme quelque chose de... absolument diabolique, on va dire. Voilà. Avec mes sœurs, on jouait pas touche pipi. Il fallait aller chercher dans la génération, enfin la même génération, mais les cousins. Donc là, ça pouvait se faire, mais il fallait pas se faire choper parce que c'était terrible. C'était terrible. Voilà. Et on s'est fait choper. Et, grosse punition. Enfin bon.
Ah oui, t'as joué à touche pipi avec les cousins ?
Pas avec mes cousins quand même, avec un cousin. Et il y a le frère de ce cousin qui nous a donné, enfin qui a cafardé.
Ouais.
Donc j'étais privée d'aller en vacances avec la famille du cousin et ma cousine. Et lui, de son côté, c'était un garçon, il n'a pas eu de punition. On l'a juste mis en garde. Je crois qu'on lui a dit qu'il y avait quand même une bonne chez lui pour lui apprendre les choses, qui est toujours... c'était encore ce temps-là, en tout cas dans cette famille-là.
Ah oui, d'accord.
C'était ce temps-là. Et...
Et t'avais quel âge ?
T'es pas très en avance par rapport aux filles de maintenant, en fait. J'avais déjà 13 ou 14 ans, donc c'était pas très en avance. Il y avait les vacances l'été. Les vacances d'été se passaient toujours sans les parents. Donc là, c'était d'autres découvertes. C'était découvertes en maillot de bain, c'était découvertes...
Et entre sœurs, vous en parliez ? Parce que toi, t'as eu deux grandes sœurs ?
Alors entre sœurs, avec ma sœur, on n'y en parlait de rien. C'était Madame Lavertu qui était enceinte quand même. Et... Et l'autre, oui, on parlait avec l'autre. On parlait et surtout, on voyait comment elle évoluait, ce qui se passait. Enfin, moi, elle était sous surveillance. Hein. Nous, on la surveillait. Donc, on était au courant de tous les mauvais coups qu'elle préparait avant que les parents soient avertis. J'ai fait beaucoup de natation. Donc, quand même, quand on va à la piscine plusieurs fois par semaine, on voit bien ce qui se passe.
Oui, c'est pratique, la piscine.
C'est pratique, c'est un lieu de drague quand on grandit. Enfin bon, moi, j'avais pas de frère. J'étais dans une école catho et il n'y avait pas de garçon. Donc, tu vois, j'avais pas de garçon autour de moi. Ah oui. Il fallait aller à la découverte. Hein.
Non, mais c'est pour ça que la piscine, c'était
bien. La piscine, c'était pas mal, mais c'était surveillé aussi quand même parce que c'est mon père qui m'amenait à la piscine quand c'était le soir. Et l'entraîneur, il ne nous laissait pas bagnauder. Hein. Ça a été beaucoup plus cool après.
Et ça, c'était dans quelles années ?
Bon, 50-55.
Quel regard maintenant tu peux porter sur le rapport au corps des jeunes adolescentes de maintenant en comparaison, si on peut faire une comparaison, entre toi, comment tu étais avec ton corps à cet âge-là ?
Alors moi je trouve que c'est bien parce qu'elles connaissent leur corps, enfin elles ont l'air de connaître leur corps, ce qui n'est pas forcément le cas, mais elles ont l'air. Connaissent leur corps, oui, et puis elles ont des décolletés, moi j'ai jamais eu de décolleté, jamais. Jamais, c'était un truc, fallait même pas y penser. Et pourtant, on avait un père qui se baladait facilement à poil. Mais enfin, il se faisait engueuler chaque fois. Donc, maintenant, oui, les jeunes... ils sont au courant de beaucoup de choses parce que tout est beaucoup plus sexualisé. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de surprises. C'est peut-être moins... je sais pas quel mot utiliser. Moins excitant. Il n'y a pas aller excitant dans le sens trouver, découvrir quelque chose. Il n'y a pas ça maintenant. Dès que tu es petit, tu trouves... tu as l'impression que les petites filles sont déjà... pas sexualisées, mais elles ont déjà une idée de leur corps et de leurs possibilités. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Alors, il ne faut pas que ça se développe trop, mais je trouve ça bien.
Alors toi, du coup, quand t'as fait tes premières découvertes sensuelles et sexuelles, c'était complètement un monde nouveau, quoi.
Non, c'était pas un monde nouveau puisque j'avais joué à touche-pipi.
Ah oui, pas.
C'était pas un monde nouveau, mais c'est vrai qu'il y avait des choses que je ne savais pas. Je ne connaissais pas mon corps, je savais pas. Puis c'était peut-être une époque ou une éducation où les choses se font comme ça, autrement. C'était assez... Sans être pratiquant, on peut dire que c'était un peu catho quand même, et ça pouvait être culpabilisant. Donc il fallait répondre à une certaine demande qui n'est pas faite, une demande non formulée, comme quoi il faut être ci, il faut être ça.
C'est-à-dire ?
Il faut être bien, il faut faire bien, faut être bien élevé évidemment. Enfin, tu vois, il y a une espèce de demande. On ne voit pas un genre de personne, on voit que le bon genre. Enfin bon, on était élevés un peu comme des princesses. Hein.
Sur la question, une des questions qui est quand même la plus récurrente en ce moment, en tout cas une des choses qu'on apprend le plus aux jeunes filles, je crois, c'est d'abord, et aux garçons d'ailleurs même, c'est la question du consentement. On vous en parlait de ça ?
Jamais entendu parler de ça.
Non ?
Non, on parlait pas de ça. Mais puisqu'on parlait de rien, on pouvait pas parler de consentement.
Après, je veux dire, au moment des premiers rapports avec les partenaires...
Non, moi j'ai dû tomber sur les bons garçons, respectueux. Non, moi j'ai jamais eu ce problème-là. Jamais.
Oh.
En fait, tu me poses pas la question... Mais tu l'as au bout de la langue. Comment ça s'est passé la première fois?
Alors, comment ça s'est passé la première fois?
Alors, la première fois, c'était quand même assez réfléchi et programmé, on va dire, parce que je trouvais que j'avais l'âge, que j'allais vers ça, qu'il ne fallait pas que ce soit n'importe quoi. Et j'avais un copain étudiant en médecine. Ça a été très clinique. Mais il a été très gentil, je me souviens, et ouais, c'était très bien, quoi, voilà.
Quel âge t'avais ?
Ouais, j'avais pas 15 ans, hein, quand même, je devais avoir, j'avais pas 15 ans, mais je devais avoir 16 ans ou 17 ans.
Maintenant, tu dirais que, est-ce qu'en matière de sexe, plus on en sait, mieux c'est ? Ou est-ce que c'est plus on en sait, trop c'est ?
Moi, je dirais, plus on en sait à cet âge, quand on est jeune, quand on commence, plus on en sait, trop c'est. Parce qu'il faut découvrir les choses par soi-même. Des fois, c'est un peu long. Ça peut être long de se découvrir, de découvrir son plaisir, de savoir comment l'avoir. Ça peut être long. Mais c'est quand même une quête personnelle. C'est pas une quête de lecture. Tu peux pas... Ça suffit pas, quoi. L'expérience des autres ne nourrit pas les uns. Enfin, de vrai, mais pour ça, ne le fait pas. Mais du coup, quand y a eu la première fois, après, tu t'autorises d'aller à la découverte d'autres fois, d'autres choses, tu vois. Alors après, ça peut être n'importe quoi aussi, hein.
Ouais.
C'est-à-dire, on y va, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas cette personne plutôt, et pourquoi pas celle-là en plus, et pourquoi pas, voilà. Mais il y avait quand même quelque chose qui n'existe plus maintenant. Il y avait la peur de d'être enceinte à l'époque. Ouais. Donc, fallait... Enfin, on pensait qu'on faisait ce qu'il fallait pour pas la lettre, voilà. Mais en fait, on savait pas, et puis personne ne... Il y avait beaucoup de familles nombreuses, il y en a de nouveaux, mais ils savent ce qu'ils font maintenant. Donc il y avait toujours ce risque-là, et c'était une chose dont plus plus je prenais de l'expérience, plus je m'apercevais que c'était à l'ordre du jour dans les conversations avec les copines. On parlait que de ça, quoi. Ah oui, et comment tu fais, toi, et qu'est-ce qui se passe. Mais moi, j'ai eu la chance, quand même, pendant toute cette période, de ne pas être dans ma famille. Puisqu'on m'a envoyé à l'étranger. Et donc, j'ai pu... j'ai dû apprendre à me débrouiller seule pour un tas de choses. Avec les copines. C'est avec les copines, toujours, qu'on apprend tout, finalement. Ouais. Peut-être qu'il y a des filles, maintenant, qui apprennent beaucoup de choses avec leurs frères. Mais ça, je ne sais pas.
Toi, ton éducation sexuelle, tu l'as faite avec les copines?
Je l'ai faite d'abord avec un cousin qui m'avait expliqué pas mal de choses. Et puis après, avec un peu une de mes sœurs, mais finalement pas tant que ça, parce que elle pensait peut-être que si elle parlait trop, elle se dévoilait trop. Elle était assez secrète. Mais comme elle avait besoin de moi pour couvrir ses sorties, elle me racontait des trucs en échange, quoi. Mais ça n'a pas changé, je suis sûre que c'est toujours comme ça. Hein. Sauf que les filles sont au courant sexuellement de plus de choses. Dans la question de la transmission, qu'est-ce qui est important de transmettre aux ados? Déjà, il faut, garçons et filles, qui comprennent que sont responsables et... Oui, ils sont responsables, mais au sens profond du terme, de leur sexualité et de ce que ça peut avoir comme effet aussi. Parce qu'il n'y a pas que les filles qui doivent savoir qu'on fait les enfants. Les garçons, il faut qu'ils s'apprennent et qu'ils connaissent leur sexualité et qu'ils se connaissent. Et les garçons, peut-être que ça, eux, on ne leur en parle pas assez. On parle beaucoup aux filles, hein, quand même. Puis c'est pas facile de parler à ses enfants non plus. Parce que si t'en parles trop tôt, t'as l'air d'une quiche. Et puis eux, ça les intéresse pas. Si t'en parles trop tard, ils trican au nez, c'est déjà fait, merci. Donc il faut en parler quand toi, comme parent, quand tu le sens, même si ça tombe mal et même si c'est à moitié entendu, ça revient toujours. J'en ai eu la preuve il y a pas longtemps. Quelque chose que j'aurais dit serait revenu... 30 ans après, quoi. Donc, c'est que ça a été malgré tout entendu. Il faut parler sans asséner. Voilà. Il ne faut pas asséner des vérités parce qu'il n'y a pas. Il faut qu'ils soient responsables de leur corps. Comme ils sont responsables de. C'est eux qui trouvent leur façon de quoi ? De jouir, je dirais. C'est eux qui trouvent. C'est pas les parents qui trouvent pour eux. Je m'aperçois que les petites filles. Qui sont élevés un peu dans la liberté de... Bon, qui sont encadrés, mais qui ont un peu plus de liberté que... On fait pas ci, on fait pas ça. Elles sont beaucoup plus... À l'écoute de leur corps... j'en connais une qui est comme ça. Hein, à l'écoute de leur corps et presque à la limite de la sensualité sans savoir ce que c'est. Et j'imagine que pour les garçons, ça peut être pareil, mais ils vivent ça différemment et ils le montrent différemment.
Autre chose ?
C'est déjà pas mal, hein, madame.
C'est vachement bien.
Madame Bonjouir, c'est pas mal.
Nous venons de partager là l'interview d'Aglaé qui avait été réalisée pour Bonjouir en février 2020. En février 2020, Aglaé, au moment où vous l'entendez, ne le sait pas encore. Mais elle est en récidive de son cancer du sein. Un cancer qui s'est propagé du sein aux hanches, au foie, bref, qui s'est généralisé, et contre lequel elle va encore lutter jusqu'au 9 avril 2023 dernier. Cette femme ne s'appelle pas Aglaé, elle s'appelle Anaïque. Et c'était ma mère. Lorsque je réécoute cette interview, je note la fraîcheur dans nos voix, je me rappelle nos rires. Je me rappelle aussi peut-être mon insouciance dans cette première année de Bonjouir. Tout était très insouciant et je trouve que cette interview le retransmet pas mal. Alors bien sûr, quelques années plus tard, il y a le poids des années, le poids et bien aussi des expériences douloureuses de la vie, des réalités auxquelles il s'agit de faire face et de la mort à combattre, ou en tout cas à essayer de faire reculer ou retarder le plus possible. Alors je vous rediffuse cette interview ce soir, aujourd'hui, car demain matin, demain lundi 20 novembre, eh bien il va se passer dans ma vie quelque chose d'assez particulier, car l'urne des cendres d'Aglaé, c'est-à-dire Anaïck, va être inhumée, et elle sera inhumée dans un caveau familial, là jusque-là tout va bien, dans lequel se trouve déjà ma sœur aînée depuis 1991. Alors j'avais envie ce soir de rendre un hommage à cette femme qui a résisté pour garder ou faire de la place à de l'insouciance, qui a réussi à me transmettre une forme de puissance, de force pour avancer en tant que femme dans ma vie, pour me sentir assez libre et libérée, ne serait-ce que pour réaliser cette émission avec vous tous les dimanches, pour maintenant la 5e saison. Voilà, alors je voulais lui rendre un petit hommage, je voulais lui dire à quel point elle guide mes pas et à quel point sa force devient la mienne.
Oh, this fever.
Oh, this fever.
Oh, this fever.
Oh, this fever.
Your hands, your touch, your fingertips, your mouth, your voice, your lovely lips. Can notice how I tremble now. Your sleepy eyes have read my mind. It made your pale skin blush like wine. My heart is beating faster now.
Oh, every time we kiss, I feel the temperature is rising to the max. Oh, when it feels like this, my skin is melting off my body just like wax. No medicines or vitamins can cure this. The perfume of your unkempt hair, the perfect fit on clothes you wear, can give me goosebumps anytime. I have this weird taste in my mouth, a mix of blood and my self-doubt. I try but just can't spit it out.
Oh,
every time we kiss, I feel the temperature is rising to the max. Like this, my skin is melting off my body just like wax.
I'm soaking wet, I'm swimming in the pool of sweat.
Canal B. Et voici maintenant la deuxième partie de la librairie Foutraque de Benjamin Bechler. Et toujours la découverte de Mangez-moi d'Agnès de Sarthe. Alors peut-être la partie sexuelle vous aura manqué dans ces lectures. Peut-être vous auriez aimé un érotisme plus torride lié aux aliments, aux plaisirs gustatifs, etc. Mais c'est aussi une petite pause, une façon de pouvoir expérimenter que le plaisir, évidemment, ça peut être dans la sexualité, mais ça peut être aussi un éveil de nos sens. Ça peut être une autre façon de regarder les choses plus quotidiennes telles que se faire à manger. Ça peut être pour vous peut-être mettre un peu de plaisir quand vous faites la cuisine, pourquoi pas. Et oui, nous ne sommes pas que des branchés du cul et absolument obsédés sexuels. On peut aussi être de fins gourmets. Oh.
Cette nuit, j'ai rêvé que les Beatles venaient dîner dans mon restaurant. Tous les quatre. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et l'autre. Celui dont je ne me rappelle jamais le nom. En les voyant entrer, j'étais très contente mais inquiète aussi à cause de ce trou de mémoire récurrent. Qu'arriverait-il si je devais les présenter à quelqu'un? Au moment de nommer le quatrième Beatle, toc, le blanc. Rien ne vient, ou plutôt si, mais c'est pire. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Lou Reed... Heureusement, il n'y a pas d'autres clients. Je n'ai donc pas à redouter l'interrogation surprise. Ah, je leur dis combien je les aime. Ils répondent avec une modestie touchante et s'asseyent à la table la plus proche de la cuisine. Nous plongeons aussitôt dans une intimité radieuse. Moi au fourneau, eux en salle, mais complices. Comme s'ils avaient choisi cet emplacement exprès pour pouvoir converser avec moi. Je suis honoré et en même temps, je considère ces égards comme naturels. Il s'agit d'un rêve, je le rappelle. Je prends la commande et là, nouvelle angoisse. Paul McCartney désire des poissons panés. J'ai oublié de dire qu'ils parlent tous un français excellent, sans le moindre accent. Les poissons panés ne figurent pas sur ma carte et je m'en veux aussitôt de l'arrogance avec laquelle je compose les menus. En quoi les nourritures dites sérieuses, les plats réputés raffinés, d'eau de cabillaud, jus de mûre et au mousseron, millefeuilles d'aubergine et d'agneau, tourte blanche au fromage, au raisin et cognac, en quoi méritent-ils davantage d'être servi chez moi? Je trouve mon élitisme répugnant. Pour couronner ma gêne, Yoko Ono, dont je n'avais jusqu'alors pas remarqué la présence, elle était sans doute pas là au début du rêve, c'est le problème avec les rêves, les gens y entrent et en sortent à contre-temps, me jette un regard sévère. Elle a raison. Je me suis bêtement mise au service d'une cuisine bourgeoise alors que... Inutile de bégayer, vite, en cuisine! Je sors du frigo un beau tronçon de lotte. Armé de mon couteau le plus fin, j'entaille la chair riche et dense du poisson, bien à distance de l'arête centrale trop sanguinolente à mon goût, et du ventre, où la chair s'amollit, tombe et se raréfie, comme les larges oreilles d'un monstre marin flappy. Je découpe un volume rectangulaire qui m'évoque les caplas, ces bûchettes en bois que j'achetais par baril de 500 pour mon fils et avec lesquelles il construisait de sublimes forteresses. Il devrait être interdit au souvenir réel de se mêler à la matière inconsistante des rêves, car la douleur qu'on en ressent est intolérable. La bûchette de poisson est parfaite, lisse, blanche, souple. Je fabrique une chapelure épaisse en faisant roussir des miettes de pain sec dans du beurre. Les miettes ne sont pas assez rondes à mon goût, pas aussi rondes que dans le souvenir que j'ai gardé des poissons panés à l'époque où j'en faisais frire dans la poêle pour mon fils, qui s'en régalait. Se félicitant secrètement d'habiter un monde régi par une si stupéfiante cohérence formelle. Aux bûchettes caplas succédaient les bûchettes de poisson, auxquelles, à l'heure du bain, il aimait prendre son bain après dîner, succéderait la bûchette du savon. Mais je délire. Je ne sais rien de ce qui se passait dans la tête de mon fils. C'est l'autre inconvénient du rêve. Cette propension à l'hallucination, à l'illusion d'une toute-puissance intellectuelle. Mes flocons de chapelure dorée sont prêts. J'y roule le poisson à peine enduit de blanc d'œuf et ça marche. Au bout de 4 passages dans l'assiette emplie de pépites, il est parfaitement déguisé, parfaitement méconnaissable en tant que filet de lotte et parfaitement reconnaissable en tant que poisson pané. Lorsque je le dépose dans l'assiette de Paul McCartney, celui-ci pousse un hurlement de joie et, sans doute pour me remercier, se met à chanter Norwegian Wood. Tous chantent avec lui, même Yoko Ono. Les guitares et les autres instruments jouent quelque part en coulisses. C'est tellement beau. Je pleure. Je pleure parce que c'est la chanson que jouait le tourne-disque la première fois que j'ai fait l'amour. Je m'en souviens très bien. J'étais par terre, sur le dos. Cela faisait des mois et des mois que l'envie montait. Je riais, pas à cause de l'étrangeté, pas à cause de la honte, je n'en ressentais aucune, pas à cause de la gêne. J'avais envie de rire à cause du bonheur de la découverte, de l'ivresse de ce que je croyais avoir inventé. J'ai pensé à Archimède et à Copernic. J'ai pensé à Newton et Einstein. J'ai pensé à Galilée. Au fond de moi, comme dans l'univers, ce gisement, comme l'attraction universelle en moi, comme dans la Terre, ces ressources intarissables d'énergie. Pourquoi ne m'en avait-on pas parlé plus tôt? Comment avais-je pu ne pas m'en douter? Et c'était gratuit? Et c'était pour tout le monde? Et c'était facile comme ça, si facile? Je n'ai pas pensé que je ne prenais pas la pilule, que le garçon n'avait pas mis de préservatif, que je risquais de tomber enceinte ou d'attraper je ne sais quoi. J'ai pensé c'est dingue. Et pendant ce temps-là, les Beatles chantaient Norwegian Wood.
Et c'est ainsi que s'achève Bon Jouir pour ce soir. J'espère que vous aurez passé un délicieux moment en notre compagnie. Il est temps désormais de rendre l'antenne. J'ai grande hâte à vous retrouver dimanche prochain à 23h. Et d'ici là, passez une foutrement belle semaine sur Canal B. Thank you.